Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Olivier Pasquier. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir Mathieu Ricard pour parler de l'altruisme. Mathieu Ricard, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour Frédéric. Bonjour Mathieu Ricard.
Bonjour.
Oui, c'est un vrai bonheur que vous nous faites de revenir en fait aux racines du ciel. Mathieu Ricard, vous êtes moine bouddhiste, auteur de nombreux livres, traducteur et aussi photographe. On a coutume de lire dans vos biographies que vous êtes le fils du philosophe Jean-François Revel, mais je crois que bientôt, il faudra qu'on mette dans la biographie de Jean-François Revel qu'il était votre père. En tout cas, vous êtes l'interprète français du Dalai Lama depuis de nombreuses années. Et vous avez publié récemment « Plaidoyer pour l'altruisme » chez Nil Éditions, parmi donc vos autres nombreux ouvrages. Mais surtout, vous avez un engagement personnel sur ce chemin de l'altruisme, un engagement humanitaire, puisque l'intégralité de vos droits d'auteur, par exemple, ainsi que les bénéfices de vos conférences et de vente de vos photos sont dédiés à l'association humanitaire que vous avez créée, Karuna Chechen. Donc, en fait, vous êtes venu nous parler d'altruisme, non pas seulement parce que vous avez écrit, réfléchi sur l'altruisme, mais peut-être, et c'est évidemment naturel, parce que vous avez pratiqué chaque jour, vous continuez à pratiquer chaque jour cet altruisme.
Alors, on en reparlera à la fin de l'émission avec Marie Dalquier, qui nous dira dans l'agenda culturel mensuel un petit peu ce que nous dira un mot de ces œuvres que vous avez créées. On va parler pendant le reste de l'émission, évidemment, des idées que vous développez sur ce plaidoyer pour l'altruisme, qui est un très gros livre. Hein. C'est un livre de 1000 pages, extrêmement complet, où on parle à la fois de l'aspect scientifique, psychologique, historique, philosophique, spirituel. Toutes les dimensions de l'altruisme sont étudiées. C'est absolument passionnant. Mais je voudrais vous demander au départ, pourquoi un plaidoyer pour l'altruisme? Est-ce que vous avez le sentiment, dans le monde d'aujourd'hui, que l'altruisme a mauvaise presse, qu'il est mal vu? Pourquoi le défendre?
Personnellement, je n'aurais jamais pensé qu'on devait le défendre. Ça m'a toujours paru une évidence que d'avoir bon cœur, c'est vraiment une chose sans doute la plus importante dans l'existence, aussi bien dans mon enfance que par la suite, quand j'ai embrassé le chemin du bouddhisme. C'est vrai que l'amour altruiste et la compassion sont la voie royale vers l'éveil, sans laquelle la poursuite d'un bonheur égoïste est vouée à l'échec et certainement ne mène pas à l'éveil spirituel. Mais disons, en réfléchissant, en lisant sur ce sujet, lorsque je préparais ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une école philosophique et un mouvement de psychologie jusque dans les années 1950, ainsi qu'une grande partie de l'économie néoclassique, qui disait que l'homme est fondamentalement égoïste, c'est-à-dire que même si on a un comportement qui semble être bénéfique aux autres, en fait, au fond, on trouvera toujours quelque part une motivation égoïste. Donc, ça m'a beaucoup surpris. Et en même temps, je me suis penché sur le problème. Je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune justification scientifique à ces affirmations, qu'au contraire, les recherches montraient tout le contraire, mais que malgré tout, les brumes de l'égoïsme universel continuaient à flotter dans l'air du temps. Et qu'évidemment, si nous étions fondamentalement égoïstes, ça ne serait pas la peine d'essayer de cultiver l'altruisme, ça ne serait pas la peine de l'essayer à nos enfants, parce qu'on serait en quelque sorte voué à être égoïste jusqu'à la fin de nos jours. Donc, si vous voulez, il était nécessaire de le montrer, et d'autre part, un plaidoyer. Pourquoi? Parce que, et c'est là, je pense, le thème central du livre, il me semble que l'altruisme est la réponse aux défis de notre époque. Nous faisons face à des défis qui sont liés à trois échelles de temps et des défis que nous n'avions sans doute pas il y a quelques siècles. Et d'abord, il y a le rythme extrêmement rapide de l'économie, hein, les cours de la bourse montent et descendent, plus personne ne comprend trop pourquoi, mais on vous dit ça c'est la réalité de la vie, et tout le reste, la qualité de vie, l'environnement, ben écoutez, on fera au mieux, mais ce qui compte, c'est que l'économie continue à croître. Et puis, il y a aussi un moyen terme qui est une vie, une famille, une carrière, donc un épanouissement dans une vie, donc, est forcément un temps déjà un peu plus long. Et puis, il y a un défi que nous ne connaissions pas jusqu'au XXe siècle, qui est celui du plus long terme de l'environnement. Pourquoi ? Parce que jusqu'à la révolution industrielle, et particulièrement jusqu'au milieu du XXe siècle, l'homme n'avait qu'un impact très mineur sur l'environnement. La résilience de la Terre était telle qu'elle réparait toutes ces blessures. Or, depuis 1950, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère humaine, à partir duquel les activités humaines ont un impact majeur sur la biosphère. Je vais juste vous donner un exemple. Au rythme actuel, en 2050, nous aurons perdu 30% des espèces sur Terre. Donc là, il y a de nouveau un autre défi qui est sur le plus long terme. Et donc, c'est très difficile pour des économistes, même si sur le plan humain, ils sont concernés par autrui, de faire entrer dans leurs modèles économiques, dans leurs comptes de fin d'année, quelque chose qui va se passer dans 100 ans. Des bons du Trésor qui donnent des revenus dans 100 ans, ça n'intéresse personne. Le rapport Nicolas Stern qui montre que ça va coûter 20 fois plus cher de payer les frais du réchauffement climatique dans 50 ans, c'est pas maintenant. Donc, si vous voulez, ils sont un peu démunis conceptuellement. Donc, quel est le concept qui au moins permet, comme un fil d'Ariane, de réconcilier ces trois échelles de temps pour y réfléchir de manière raisonnable? C'est bien d'avoir davantage de considération pour autrui. Si vous avez davantage de considération pour autrui, vous allez faire en sorte que la vie au travail, dans la société, dans la famille, permette cet épanouissement et que les êtres puissent accomplir leurs aspirations profondes. Et si vous avez davantage de considération pour autrui, vous n'allez pas saboter la planète pour les générations futures en disant « après moi le déluge ».
Alors comment est-ce que vous considérez exactement l'altruisme pour le distinguer d'autres termes qui sont souvent utilisés comme l'empathie, comme l'amour, comme la compassion? Qu'est-ce que précisément l'altruisme pour vous?
Alors effectivement, tous ces termes procèdent en gros de la même sphère de bienveillance vis-à-vis d'autrui. Mais malgré tout, ils ont des sens assez différents. On parle beaucoup d'empathie en ce moment et l'empathie pratiquement remplace le mot altruisme dans le langage courant. Il faut avoir de l'empathie pour les autres, etc., etc. En fait, techniquement, l'empathie, c'est une résonance affective. C'est comme ça que les neuroscientifiques et les psychologues la définissent. C'est-à-dire que, par exemple, si vous entrez tout joyeux dans une pièce, eh bien, sans même réfléchir, vous allez vous sentir un petit peu joyeux. Si, par contre, vous êtes une infirmière ou quelqu'un qui s'occupe d'une personne qui souffre beaucoup, vous allez résonner affectivement avec la souffrance de l'autre, souffrir de sa souffrance, et cette souffrance est réelle. Si vous regardez dans le cerveau, les aires liées à la souffrance sont activées. Donc vous souffrez de la souffrance de l'autre. Donc ça, c'est une résonance affective. Il y a aussi une composante cognitive de l'empathie qui consiste à se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce que je ressentirais si j'étais dans la situation de cette personne? Et ça, c'est très important, parce que vous pouvez être complètement insensible au sort de l'autre si vous n'imaginez pas ce qu'il ressent. Kafka disait, par exemple, « La guerre est un prodigieux manque d'imagination. On ne s'imagine pas la souffrance de l'autre. » Vous voyez, c'est que deux composantes-là. Mais ça ne suffit pas. L'altruisme, c'est beaucoup plus. C'est le souhait profond, puissent tous les êtres, et ceux en particulier que je rencontre, être heureux et trouver les causes profondes du bonheur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand cette bienveillance inconditionnelle, a priori, vis-à-vis de tout le monde, est confrontée à la souffrance? Ce même souhait bienveillant est alerté par l'empathie qui dit « Ah, il y a quelqu'un qui souffre ici », donc vous percevez ça au travers de l'empathie, et c'est une sorte de catalyseur qui fait que l'amour altruiste ou la bienveillance se transforme en compassion, c'est-à-dire le souhait puisse ces êtres être libérés de leur souffrance et des causes de la souffrance. Donc la compassion, c'est ce que devient l'amour bienveillant lorsqu'il est confronté à la souffrance. C'est un aspect particulier de l'amour bienveillant. Et l'empathie, c'est beaucoup plus restreint. C'est une sorte de résonance qui vous dit cette personne souffre ou qui vous exige que vous réfléchissiez à son sort.
Oui, alors je voudrais revenir un instant où vous avez dit que vous avez parlé de l'état général du monde aujourd'hui. Et vous semblez un peu optimiste quand même sur le fait que l'altruisme existe au cœur de chaque être humain. Je voudrais me faire un instant l'avocate du diable c'est pas, d'habitude, je ne joue pas ce rôle, mais quand même, quand on regarde le monde, quand on voit comment ceux qui ont une action sur le monde, les vrais agissants ou les vrais puissants agissent sur le monde, on n'a quand même pas l'impression qu'ils soient animés par une quelconque empathie, par un quelconque esprit d'altruisme et encore moins de compassion, évidemment.
Alors ça, c'est dû à beaucoup de facteurs. Tout d'abord, le fait que le mal attire beaucoup plus l'attention que le bien. Si vous avez 100 personnes qui coopèrent au long d'une journée, ça ne fait pas une nouvelle. Si une de ces 100 personnes agresse une vieille dame ou commet un meurtre, tout le monde le sait dans le pays. Pour vous dire à quel point cette présentation de la réalité est biaisée, un adolescent de 20 ans, enfin disons une personne de 20 ans, aura vu 40 000 meurtres à la télévision. Bon, il y a certainement des gens qui ont vu des meurtres dans leur existence, mais c'est quand même très rare, et certainement pas 40 000. Donc il y a certainement une sorte d'exagération colossale de la présence du mal. Et en fait, si vous regardez les actes de notre existence, ils sont beaucoup plus tissés de sollicitude, de bienveillance, d'entraide. Quand vous sortez d'un avion ou d'un train, vous ne dites pas c'est formidable, les gens ne sont pas battus pendant le voyage. C'est normal. Il faut rappeler ça la banalité du bien, c'est-à-dire qu'en fait, notre vie est beaucoup plus tissée de ces actes de sollicitude. Et c'est tellement presque naturel que du coup, ça nous échappe un petit peu. Et donc, en fait, tout ça, on peut avoir des idées a priori. Mais ce qui compte, c'est finalement, quelles sont les données des études scientifiques qui étudient le comportement de milliers de personnes? Est-ce que vraiment l'animosité, l'agressivité, la violence prédominent? Et non, la réponse est non. Si l'on regarde, en fait, les gens se comportent beaucoup plus de façon bienveillante. Même dans les situations graves, comme dans les catastrophes naturelles, on parle toujours de panique, de pillage, de viol, etc. Quand on étudie vraiment ce qui s'est passé, c'est pas ça. Les images de télévision vous montrent des gens qui vont piller des supermarchés, soi-disant, durant l'ouragan de Katrina, par exemple. C'est normal que des gens qui ont leurs enfants meurent de soif aillent chercher là où ça se trouve de l'eau potable. Les journaux étaient pleins de soi-disant de scènes de pillage, des viols partout, des meurtres, alors qu'en fait, une fois passé, on s'est aperçu que les gens étaient très calmes, qu'ils s'étaient organisés, qu'ils s'étaient entraidés, qu'il n'y avait pas eu un seul meurtre, qu'il n'y avait pas eu un seul viol. Donc, si vous voulez, tout ça est fortement exagéré parce que ça nous choque, en fait, quand un acte extrêmement violent ou égoïste se manifeste. Donc, je crois qu'il faut revoir ça de cette façon. Alors, ce qui concerne les dirigeants, bon, c'est une catégorie évidemment influente de la planète, mais enfin, vous savez, souvent, il y a telle contrainte internationale, ça ne veut pas dire forcément qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne souhaitent pas faire du bien, mais souvent, les réalités font qu'ils sont assez muselés dans leurs activités.
Pour reprendre un peu la question de Lélie autrement, vous avez parlé de ce noyau dur égoïste qui était, semble-t-il, attesté, y compris pour Freud, pour la plupart des psychologues. Qu'est-ce que, aujourd'hui, d'un point de vue de la recherche scientifique ou psychologique la plus récente, on peut dire sur ce noyau dur à la fois égoïste et altruiste? C'est-à-dire, est-ce que l'altruisme est quelque chose, ce serait ma seconde question, quelque chose de tout à fait inné et présent chez tous les êtres humains, à l'inverse de ce que serait peut-être ce noyau dur égoïste, ou est-ce que c'est quelque chose qui se développe par la culture?
Il n'y a pas de noyau dur égoïste. Ça n'a pas été attesté, et comme un commentateur scientifique l'a dit, c'est de la science de fauteuil. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais fait des études scientifiques. Il n'y a aucune étude scientifique sérieuse qui montre que l'homme est systématiquement égoïste. Tout le monde, le contraire. C'est des préjugés de dire, il y a des évolutionnistes qui l'ont dit, gratter à la surface d'un altruiste, et c'est l'égoïste qui va saigner, c'est-à-dire ils se sont ingéniés par tous les moyens possibles pour essayer de vous montrer qu'il y avait des motivations égoïstes dans des actes qui semblent extrêmement altruistes. Ils vont jusqu'à vous dire, si c'est un acte désintéressé, anonyme, qui a certains coûts pour vous.
Il y a un besoin d'être connu. Ou il y a
même
toujours...
pas, mettons, personne ne le sache. Ouais. Ils vous diront oui, mais vous dites que ça vous a fait du bien d'aider l'autre. Ah, mais vous faites ça parce que ça vous fait du bien, cher ami, c'est égoïste. Alors, bon.
On joue sur les mots un petit peu. Parce que
on joue sur les mots.
On pourrait tout à fait comprendre qu'il y a des natures généreuses, ça leur fait plaisir de faire du bien, mais ce n'est pas de l'égoïsme au sens où on peut l'entendre effectivement de manière plus
courante. Alors, d'une part, c'est un faux procès, parce que De toute façon, le fait de se sentir bien après avoir accompli un acte altruiste, c'est un effet secondaire, c'est comme un bonus. Si vous, les paysans qui font une récolte, ils font pour le blé, ils ne font pas pour le foin, mais ils ont le foin en plus. Donc, si on partait en se disant, voilà, je vais faire le bien de l'autre, je m'en fiche totalement de son sort, mais je vais faire son bien parce que je vais me sentir bien, ça ne marchera pas. Parce qu'il manque, si vous voulez dire qu'il faudrait faire du bien et se sentir mal, c'est comme de demander qu'un feu brûle mais n'émette pas de chaleur. Ce qui est plus important, c'est que toutes les études scientifiques sérieuses, il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel Batson, par exemple, qui a fait sur 20 ans une trentaine de protocoles expérimentaux mettant les gens dans des situations où, justement, agissent-ils ainsi parce qu'on va faire leur louange ? Agissent-ils de manière altruiste parce qu'ils vont, sinon ils vont se sentir coupables au fond d'eux-mêmes ? Eh bien, tout a montré que, quelles que soient les situations, il y avait un certain nombre de personnes qui, dans toutes les circonstances, se comportaient de manière altruiste.
Oui, alors, fondamentalement, ce que vous nous dites, c'est que l'altruisme est un instinct et qu'il va se manifester, ou pas, selon les différentes circonstances de la vie auxquelles on est confronté, selon éventuellement son éducation, sa nature aussi, comme disait Frédéric. Moi, je vous ai apporté comme premier texte, non pas un texte issu de la tradition bouddhiste, sur laquelle vous méditez évidemment très longuement et très profondément, mais un texte connu, je crois, de tous nos auditeurs, qui est Le Prophète de Khalil Gibran. Et il y a un chapitre, en fait, sur le don. On pourrait dire que c'est un chapitre sur l'altruisme, en réalité. Et je vais juste lire un court extrait de ce chapitre, et puis vous nous direz après ce que vous en pensez, parce que justement, il fait une typologie, en fait, de l'altruisme. « Il y a ceux qui donnent peu de leur surplus, et ils le donnent pour susciter une reconnaissance, et ce désir secret pervertit leur don. Et il y a ceux qui donnent peu, mais le donnent entièrement. Ceux-là croient en l'existence et en la générosité de la vie, et leur fond n'est jamais vide. Il y a ceux qui donnent dans la joie, et cette joie est leur récompense. Il y a ceux qui donnent dans la douleur, et cette douleur est leur baptême. Et il y a ceux qui donnent et ne connaissent pas de douleur à ce geste, ni ne cherchent de la joie, ni la conscience d'être vertueux. Ils donnent comme le myrte exhale son arôme dans l'espace de la vallée, là-bas. Dieu parle à travers les mains de tels êtres, et derrière leurs yeux, sourit à la terre. Car en vérité, la vie donne à la vie, pendant que vous, qui prétendez être le donateur, vous n'êtes en réalité qu'un témoin. »
C'est magnifique. Effectivement, l'idée que l'altruisme doit engendrer un sacrifice, ça ne tient pas debout. Même si ça a l'air pour certaines personnes d'être un sacrifice, si vous êtes empli de joie à l'idée de le faire, je ne vois pas où le sacrifice. Et pour en revenir à cette idée d'altruisme inné, je crois que ce qui est le plus révélateur dans ce domaine, c'est les études qui ont été faites depuis 20 ans sur le comportement des très jeunes enfants. Des enfants de 2 ans, à peine savent-ils marcher. Il y a un groupe de chercheurs qui ont fait ça. Et ils se sont aperçus que ces enfants étaient des coopérateurs inconditionnels. À peine pouvaient-ils marcher à 4 pattes, que si par exemple un expérimentateur laissait tomber quelque chose et visiblement ne pouvait pas l'attraper, qu'ils délaissaient leur jeu à l'autre bout de la pièce et se précipitaient pour l'aider à 98%. Donc l'idée que les enfants sont fondamentalement égoïstes, comme les autres, comme certains l'ont dit, c'est entièrement faux. Et ça n'est ni influencé par les parents, les récompenses d'encouragement ne changent rien. Ce n'est pas modifié par les récompenses ou les punitions. Même les récompenses vont parfois jusqu'à diminuer. Parce que finalement, ils le font plus spontanément. Mais si la récompense ne les intéresse pas, donc ils ne bougent plus. Et ce qui est intéressant, c'est que vers l'âge de 4-5 ans, ils commencent à s'apercevoir que tout le monde n'est pas forcément gentil. Il y a des gens qui les traitent moins bien ou qui n'ont pas de réciprocité. Et seulement à l'âge de 5 ans, ils commencent faire une distinction. On ne peut pas être inconditionnellement coopérateur avec tout le monde. Donc, il y a un petit peu une discrimination qui s'opère. Et puis plus tard, vers 10-12 ans, de nouveau, ils sont capables d'étendre le cercle de leur altruisme, par exemple, de manière abstraite. C'est-à-dire, on leur parle d'enfants au Bangladesh, au Soudan, qui souffrent, et ils sont capables d'être concernés par eux. Donc, on voit bien que si on liait ça à l'éducation... Bien sûr, la coopération inconditionnelle, c'est merveilleux. Il faut laisser se faire cette petite discrimination qui permet de se protéger pour ne pas être exploité par les autres. Mais pas que ce soit une discrimination trop forte, de sorte qu'ils s'ancrent dans cette question de mon groupe et les autres. Et de nouveau, favoriser cette expansion de l'altruisme plus tard. Donc ça va beaucoup à l'encontre de pas mal de préjugés du 20e siècle. Père Piaget disait que l'empathie n'est pas avant l'âge de 7 ans. On sait maintenant qu'à 2 ans, les enfants peuvent être très empathiques, etc., etc. Donc je crois que c'est essentiel justement que toutes ces études ont été conduites par deux chercheurs qui s'appellent Michael Tomasello et Felix Warnecken au Max Planck de Leipzig, parce que ça, il faut justement que l'éducation soit modelée et suive l'évolution de l'enfant pour favoriser certaines choses et ne pas aller à l'encontre justement de ce que le potentiel que l'enfant est capable d'exprimer et que comme adulte ensuite il soit quelqu'un qui contribue de façon constructive à la société.
Om ta ri tu ta ri tu ri swaha Om ta ri tu ta ri tu ri swaha Om ta ri tu ta ri tu ri swaha
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Ricard pour parler de l'altruisme à l'occasion de son livre magnifique Plaidoyer pour l'altruisme, La force de la bienveillance chez Nil Éditions. Mathieu, juste pour reprendre la conversation où elle était juste avant cette pause musicale, vous nous disiez donc qu'on a repéré scientifiquement que les enfants, dès l'âge de 2 ans, avaient une dimension altruiste, une dimension d'empathie, de générosité, de don. On se doute bien aussi qu'ils ont aussi une dimension d'égoïsme et que les deux, finalement, sont un peu en concurrence. Donc le rôle de l'éducation peut être déterminant pour éveiller plutôt l'altruisme et aider à mieux contrôler l'égoïsme, j'imagine.
Alors évidemment, il ne s'agit pas d'avoir une vision naïve en pensant qu'il n'y a que l'altruisme, on sait très bien. Il n'y a pas besoin de démontrer que l'égoïsme existe puisqu'il y a des gens qui sont persuadés qu'il n'y a que ça. Donc ça, ce n'est pas le problème. Évidemment. Maintenant, dans notre esprit, nous pouvons avoir des motivations contradictoires vis-à-vis de la même chose. On a envie, par exemple, de tout donner à quelqu'un et en même temps, on se dit, il faut quand même que je me préserve. Donc, si vous voulez, ces motivations peuvent cohabiter en notre esprit. Et donc, quelle va être la plus forte? Donc, encore une fois, ce qui est important, c'est de reconnaître ce potentiel d'altruisme, de voir qu'il peut y avoir, bien sûr, des motivations égoïstes qui parfois sont nécessaires pour simplement, ils ne sont pas vraiment égoïstes, mais pour veiller à son propre bien. Ce n'est pas égoïste d'ailleurs de vouloir survivre, de vouloir s'épanouir dans l'existence. C'est prendre soin de soi et de sa vie, mais ce n'est pas égoïste dans le sens que ce n'est pas au détriment d'autrui. C'est-à-dire qu'on ne va pas instrumentaliser autrui pour arriver à nos fins. Là, c'est vraiment égoïste. Mais simplement prendre soin de soi, l'amour de soi n'a rien d'égoïste. En soi-même.
Oui, c'est bien de le rappeler.
Oui, bien sûr.
Il y a eu évidemment des dérives dans l'autre sens, notamment dans la tradition occidentale.
Bah oui, il n'y a pas besoin de se sacrifier. Simplement, il faut qu'on ait constamment à l'esprit le bien de soi-même et d'autrui. Et aussi peser le pour et le contre. Je veux dire, si vous avez un bien personnel qui est minime et vous sacrifiez un bien d'autrui qui est considérable, ça n'a pas de sens. Donc il faut garder une certaine impartialité, dans savoir quels sont les tenants, les aboutissants de vos actions, de vos pensées, de vos paroles à l'égard d'autrui.
Alors justement, comment, je crois que ça peut-être parce que c'est la mère que je suis qui vous parle, mais je crois que nombreux sont nos auditeurs que cela intéresse. Si on part de l'idée qu'évidemment les enfants ont cela de manière innée, mais qu'ils ont aussi la tendance à l'égoïsme de manière innée, comment pratiquement combattre leur égoïsme en leur enseignant véritablement ce que c'est que l'altruisme? C'est quand même une vraie difficulté à laquelle nous sommes confrontés, que nous soyons parents ou éducateurs d'ailleurs.
Absolument.
Et de plus en plus, je le constate.
J'ai un ami scientifique, Richard Davidson, qui travaille beaucoup sur les neurosciences de l'imitation, mais qui aussi est passionné par l'éducation. Il a créé récemment, dans des écoles maternelles, à Madison aux États-Unis, un programme qui s'appelle « Compassion pour la maternelle ». Et bon, compassion en anglais, c'est pas la pitié, c'est vraiment c'est un aspect de l'amour altruiste. Et donc, c'est un programme de 10 semaines. Des éducateurs viennent 30 minutes, 3 fois par semaine dans la classe. Et il y a environ la moitié du temps qui est passé à développer une certaine conscience de des émotions des enfants pour leurs sentiments. Et par exemple, on leur fait faire la respiration de l'ours en peluche. Ils sont allongés, il y a un ours en peluche sur leur poitrine et ils sont conscients de leur respiration, de leurs états mentaux. Ensuite, on leur demande d'être conscients des états mentaux de l'autre. Si un enfant pleure, on dit voilà, pourquoi pleure-t-il? Et les tristes, est-ce que ça te fait quelque chose, etc. Et puis, peu à peu, ils introduisent la notion de bienveillance, de gratitude. Ils plantent ce qu'on appelle des plantes de paix, c'est-à-dire qu'ils plantent des petites plantes qui vont pousser pendant ces 10 semaines. Et ils disent, voilà, de la même façon qu'il faut prendre soin des plantes, il faut prendre soin de l'amitié, etc. etc. Alors, c'est un programme, je ne vais pas vous donner tout le détail, mais qui est fait avec des enfants de 4-5 ans. Et après, donc, on a évalué les différences à la fin de ces 10 semaines par rapport à une autre classe ou d'autres classes où il ne s'est rien passé de spécial. D'abord, les professeurs et les parents ont noté un comportement prosocial nettement augmenté, c'est-à-dire que les enfants se disputaient moins, s'entendaient plus, les rapports étaient meilleurs. Mais ils ont fait un test qui est passionnant, enfin qui est très amusant, qui est le test ultime, c'est le step des autocollants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Avant l'intervention, on détermine quel est pour chaque enfant son meilleur ami ou sa meilleure amie dans la classe. Quel est l'enfant dans la classe qu'ils aiment le moins? Et on leur donne 4 enveloppes au départ, avec les photos du meilleur ami, de la moins bonne amie, d'un enfant inconnu et d'un enfant malade qui a un pansement, etc. Et on leur donne des autocollants, 50 d'autocollants, et dit, vous devez les donner, mettez-les dans l'enveloppe que vous voulez. Avant l'intervention, comme vous pouvez l'imaginer, ils donnent quasiment tout à leur meilleur ami. Les scientifiques se sont dit, bon, est-ce que ça va probablement faire une petite différence au bout des 10 semaines? Bien plus que ça. Aucune différence. Ils donnent également à celui qu'ils considèrent comme leur meilleur ami, comme leur moins bon ami, comme un enfant étranger, un enfant malade, ils partagent également. Donc, en 10 semaines d'une intervention très facile, vous avez brisé cette distinction très forte entre mon groupe et les autres. Donc ça, c'est le genre d'intervention qu'on voudrait voir partout.
Il faudrait faire ça à l'échelle de la planète avec les adultes, ce serait formidable. Oui. Donc, plus de communautarisme, de sectarisme.
Mais ce qui est important, c'est que si vous commencez avec ces enfants de 4 ans, et on s'aperçoit qu'ils conservent cet acquis. Et la ville de Louisville au Kentucky est disposée à mettre les 100 000 enfants de ses écoles maternelles à disposition pour faire cette expérience sur une plus grande échelle. Donc ça, ce genre de choses, en fait, ce qu'il faut, c'est par la force de l'exemple, en amenant les enfants à pratiquer d'une manière ou d'une autre dans des gestes simples, l'altruisme, par exemple, je ne sais que vis-à-vis des animaux, par exemple. Souvent, on voit des enfants marcher sur des fourmis. Dans le monde où je vis, dans l'Himalaya, les parents, quand il y a des insectes qui traversent le chemin, ils montrent à l'enfant, regarde, un petit animal, on le prend avec une feuille, on le met de côté pour que personne ne lui marche dessus. Ça, c'est l'exemple. C'est un enseignement de la vie de tous les jours.
Saint-Mathieu, justement, c'est une question que je voulais vous poser, parce que vous en parlez beaucoup des animaux dans votre livre, à plusieurs endroits. Je voulais vous poser 2 questions sur les animaux. D'abord, effectivement, est-ce que, vous venez de commencer à répondre, vous pouvez développer un petit peu, est-ce que l'altruisme doit concerner autant, effectivement, les animaux que les êtres humains? On sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de philosophes occidentaux disent, mais absolument pas, il doit y avoir une distinction totale entre l'homme et l'animal. Et deuxièmement, est-ce qu'on a repéré scientifiquement que l'altruisme existait aussi chez les animaux?
Alors, l'altruisme, pour les psychologues et en ce qui me concerne, est défini comme une motivation, hein, c'est-à-dire le désir, le fait d'être concerné par l'autre, d'accorder de la valeur à l'autre, et donc d'être concerné par son sort, vouloir lui procurer du bien ou soulager ses souffrances. Donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile d'établir la motivation chez les animaux. On peut le voir dans le comportement, mais on n'est pas 100% sûr. Alors, chez les animaux, malgré tout, on observe des comportements qui se ressemblent beaucoup, beaucoup à l'altruisme. J'ai une histoire. Franz De Waal décrit un bonobo, donc c'est une sorte de petit chimpanzé qu'on a confondu longtemps avec les chimpanzés, qui voyait un étourneau, un oiseau, qui était blessé, qui avait percuté une vitre et qui était tombé par terre. Donc, il l'a pris entre ses mains délicatement, il a étendu les ailes, il l'a relâché pour voir s'il volait, donc il pouvait d'abord comprendre que cet oiseau, normalement, volait. Et puis, il est monté sur une branche, il a écarté les ailes, il l'a lancé, et l'oiseau est retombé. D'autres bonobos sont approchés, il l'a pris pour le protéger des autres bonobos, des choses comme ça. Donc, tout ça, je veux dire, ça semble vraiment de l'altruisme, n'est-ce pas?
Est-ce que vous avez vu ce film extraordinaire d'un hippopotame qui protège une gazelle contre un alligator?
Je n'ai pas vu cela, mais j'en ai vu bien d'autres.
Il faut aller voir sur YouTube, vous mettez hippopotame, gazelle. C'est une scène extraordinaire d'un hippopotame qui éloigne un alligator d'une gazelle blessée et qui semble vraiment être dans la compassion, là, quand on regarde.
Alors, justement, il y a des phénomènes d'altruisme entre espèces. Hein, donc les gènes égoïstes en prennent un coup, là. Et pour revenir entre ça et les enfants, on a observé les mêmes comportements d'entraide chez des chimpanzés. Par exemple, vous avez deux chimpanzés dans deux cages différentes. Il y a une cage de nourriture et tous les deux savent qu'il y a plein de nourriture, mais celui qui est dans une des cages ne peut pas y accéder. Par contre, il peut ouvrir la porte avec une ficelle. Et l'autre lui fait des signes. Lui, ça n'intéresse pas parce qu'il ne peut pas accéder à la nourriture. Mais il va ouvrir la porte pour l'autre afin qu'il se nourrisse. Donc ça veut dire aussi que si c'est inné, ça remonte au moins à 5 millions d'années, à notre ancêtre commun avec les bonobos. Donc c'est bon signe pour l'altruisme.
Et sur la deuxième question, c'est la frontière de l'altruisme. Est-ce que ça doit s'arrêter à l'humain ou est-ce que ça doit aller évidemment à
toute être vivant ? La deuxième question, c'est si on pense que les animaux sont des automates, des objets, etc. Donc si vous voulez, déjà, on peut voir ce qui se passe entre les humains. Qu'est-ce que c'est qu'un massacre de masse ? Vous voyez, tous les mécanismes consistent à déshumaniser l'autre, à le dévaloriser, à le désindividualiser. Et vous voyez, tous les dictateurs ceux qui sont livrés à des massacres de masse ont généralement ravalé l'être humain au rang d'animaux dans leurs yeux. C'était tous des vermines, des pestes, des rats. Aussi bien Kadhafi, Hitler que les autres ont tous employé ce même langage. Et on va encore plus loin avec les animaux. On en fait des objets de consommation. Vous voyez des gens qui vous disent, j'ai des citations dans le livre, finalement, le porc n'est qu'une autre qu'une machine à faire des saucisses et on ne doit pas le considérer autrement. Donc, on ravale les animaux au niveau d'objets. Alors qu'évidemment, c'est des êtres sensibles et tous ceux qui ont un peu étudié l'évolution vous diront qu'il n'y a qu'une transition, je dirais, absolument continue dans le monde animal et que si on a des émotions, c'est parce qu'elles existent déjà, chez les animaux aussi, peut-être à des degrés moindres de sophistication et d'élaboration, mais c'est évident que si on les a, elles ne sont pas tombées du ciel, et que donc toutes ces émotions d'empathie, de souffrance, etc., existent chez les animaux. On a maintenant mis en évidence très clairement que les poissons, par exemple, même s'ils n'ont pas d'expression faciale pour le manifester, ont les mêmes terminaisons nerveuses et les mêmes neurotransmetteurs pour la perception de la douleur, donc ces entreprises ne sont pas là pour rien. Que les homards, quand vous les mettez dans l'eau bouillante, ils souffrent pendant une minute. Donc là, il y a une totale aberration morale dans le fait qu'on peut, en France, tuer 1,5 milliard d'animaux par an pour notre consommation, comme si c'était véritablement des objets au lieu d'être des êtres sensibles.
Oui, alors là, vous touchez un point très sensible, c'est-à-dire qu'il y a quand même une différence, il y a un abîme entre l'Orient et l'Occident. Donc, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est quand même lié à une culture de voir le monde comme cela?
Je ne serais pas aussi loin. Tout d'abord, la distinction n'est pas entre la vie et la non-vie, l'inanimé, c'est plutôt entre le fait d'être sensible, oui. C'est-à-dire d'être capable de percevoir, même d'une façon très élémentaire, la douleur. C'est-à-dire de s'éloigner de ce qui met votre intégrité physique et votre vie en danger. Donc ça, même un ver de terre, et vous le mettez sur une plaque chaude, il s'en va. Non, je veux dire, il y a visiblement une réaction. Bon, c'est vrai que c'est au cœur de certaines philosophies comme le bouddhisme, où on parle d'être sensible, donc ça n'a rien à voir avec le degré d'intelligence, hein, que les êtres humains ont à un point, évidemment, largement supérieur à ceux des animaux. Mais simplement, si on vous enfonce un couteau dans le ventre, que vous soyez une chèvre ou un homme, excusez-moi, mais il n'y a pas beaucoup de différence.
Bien sûr.
Maintenant, que vous ayez des plans à long terme, que vous pensiez à votre avenir, à vos enfants, ça c'est autre chose. Enfin bon, la douleur elle-même, le fait de vouloir être en vie, c'est un choix. Donc je crois quand même en Occident, il y a énormément de penseurs. Vous avez parmi les Grecs, Ovide, vous avez des phrases magnifiques sur le fait justement comment peut-on ne pas se rendre compte de la souffrance des animaux, être si fermé. Donc la distinction n'est pas aussi
vaste que vous le dites. Montaigne a des pages entières sur les animaux en montrant leur bonté, leur intelligence, leur sensibilité.
Absolument.
Etc.
Oui, mais
donc,
c'est Descartes qui a gagné quand même.
C'est Descartes qui a gagné.
Descartes a gagné momentanément parce que l'idée que les animaux étaient des robots est tellement ridicule que franchement, ça n'a pas été très loin.
Thank you.
Avec la compassion, la racine du dharma est solidement plantée. Sans compassion, elle pourrit. Qui a la compassion reste bienveillant, même en colère. Qui ne l'a pas peut tuer avec le sourire aux lèvres. Pour le compatissant, même un ennemi devient ami. Pour celui qui ne l'est pas, même un ami devient ennemi. Qui éprouve de la compassion détient tous les enseignements. Qui n'en éprouve pas n'en possède aucun. Qui abrite en son cœur la compassion est un vrai bouddhiste. Qui n'en a pas est pire que les impies. Celui qui contemple la vacuité ne peut se dispenser de la compassion, car de cette vacuité, elle est le cœur. Qui avance sur la voie doit être magnanime. La compassion est la marque du disciple authentique, c'est l'essence de tous les enseignements. La grande compassion est la gemme des souhaits. Elle comble tous les espoirs, ceux de soi-même comme ceux des autres. Alors vous tous, religieux et laïcs, cultivez la compassion et vous parviendrez à l'éveil. Puissent les hommes et les femmes qui entourent ce champ être animés d'un grand amour pour tous les êtres et œuvrer à leur épanouissement. C'est un poème que vous avez traduit dans votre anthologie des plus beaux textes tibétains
de Shabka, tibétain.
Qui a donc vécu à la fin du 18e, au milieu du 19e siècle.
Absolument.
C'est-à-dire que c'est quand même une idée qui est là depuis le début, puisque c'est le cœur du dharma.
C'est voilà. Le cœur du dharma. Et n'oublions pas que compassion ne veut pas dire pitié du tout. La compassion comme une pitié serait inutile. La pitié, c'est un côté orgueilleux.
Condescendant.
Condescendant. La compassion, c'est le désir profond, viscéral, de remédier à la souffrance d'autrui. Donc c'est la manifestation de l'amour vis-à-vis de la souffrance.
Et alors, je voudrais qu'on termine cette émission, qui malheureusement touche bientôt à sa fin, avec la notion de collectivité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'altruisme qui est inné dans l'enfant, qu'on peut éduquer, éveiller. Maintenant, comment faire, si ce n'est évidemment par l'éducation déjà des enfants qui peut beaucoup changer les choses, mais comment appliquer cette notion d'altruisme à l'échelle collective et planétaire aujourd'hui?
Alors déjà, il faut passer à un niveau supérieur de coopération. Les spécialistes de l'évolution récemment sont venus à penser que la coopération a été beaucoup plus créative dans les différentes étapes de l'évolution que la compétition. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, l'apprentissage coopératif où des enfants étudient ensemble par petits groupes s'est avéré beaucoup plus efficace humainement et même pour l'état scolaire que l'apprentissage compétitif. Donc on voit que la coopération est dans au sein d'une entreprise, par exemple, si les banques d'entreprise peut-être sont en compétition entre elles pour pas que les prix s'envolent, mais au sein d'une entreprise, il faut une coopération inconditionnelle pour que l'entreprise fleurisse, que les gens soient heureux d'y travailler. Donc la coopération est essentielle. Donc si vous voulez ce potentiel, je crois que c'est Bertrand Russell qui disait la coopération est notre seule chance de survie à l'heure actuelle. Donc il faut passer de niveau individuel à un niveau de société. Et l'évolution des cultures permet. Si vous avez un groupe d'altruistes qui coopèrent entre eux, qui ont un but commun, ils auront beaucoup plus de succès qu'un groupe d'égoïstes qui n'arrête pas de se tirer dans les pattes, naturellement. C'est ça qu'ils font du matin au soir. Et dans le domaine de l'évolution de notre planète, c'est évident qu'on parle toujours de croissance. Mais la croissance illimitée est impossible. Il faudrait 3 planètes en 2050 au rythme où vont les choses pour satisfaire les besoins des gens. Si la Chine avait autant de voitures aujourd'hui que par tête d'habitant qu'aux États-Unis, il faudrait toutes les réserves de pétrole au monde. Donc même un développement durable est forcément limité. Donc je préfère un concept d'harmonie durable. C'est-à-dire qu'on va plutôt se centrer sur un développement de la qualité de vie plutôt que de la quantité. Qu'est-ce que ça veut dire, une harmonie durable? C'est d'abord sortir de la pauvreté 1,5 milliard d'êtres humains qui sont dans la pauvreté. Saisir cette consommation absurde et excessive dans les pays les plus riches qui sont à l'origine du réchauffement climatique dont souffrent les populations les plus pauvres et qui est de toute façon insoutenable sur le long terme en raison des réserves de la planète. Et donc arriver à un équilibre où chacun puisse vivre de façon décente, chacun puisse s'épanouir dans l'existence et que ces inégalités extrêmes soit diminué. Et ce n'est pas au coût de la qualité de vie, mais c'est une sorte de simplicité volontaire qu'elle exige dans les pays développés, ne veut pas dire moins de bonheur, bien au contraire. Trop souvent, on est beaucoup plus heureux dans une certaine simplicité que d'être constamment dans la soif de vouloir plus de possessions matérielles. Il y a d'ailleurs des études qui ont été faites là-dessus et qui ont montré, en étudiant 10 000 personnes sur 15 ans, que les gens qui sont le plus
élevés dans l'échelle de l'esprit de consommation matérialiste sont généralement moins heureux, en moins bonne santé, ont moins bon d'amis, sont plus obsédés par la mort. Donc, en gros, c'est pas un bon pari que de mettre tous ses espoirs et ses craintes à l'extérieur de nous-mêmes, dans les objets matériels, dans l'image, etc.
Donc, vous plaignez la sobriété heureuse de notre ami Pierre Rabhi.
Exactement.
Belle expression.
Et qui est heureuse. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va être privé de tout, qu'on va être là à maigrir dans un coin extrêmement ascétique. C'est une façon de s'épanouir qui est beaucoup plus efficace.
Oui, mais alors justement, encore une fois, il y a quand même une... comment dire, un écart entre ce modèle de société que vous proposez, avec lequel moi je suis d'accord. Globalement, c'est quand même pas ce modèle que suivent nos dirigeants. C'est quand même pas vers cela qu'on se dirige. Comment faire pour changer la direction de ce monde fou ?
Oui, en même temps, l'avantage de pouvoir voyager dans le monde entier, d'avoir des contacts avec des philosophes, des scientifiques, des économistes, des gens qui se travaillent dans le développement, dans l'humanitaire. On voit un peu partout. Regardez, c'est millions d'ONG qui sont présentes dans le monde. C'est un phénomène complètement nouveau, de la base. Il y a des économistes influents qui disent maintenant l'économie n'est pas seulement de la voie de la raison, il faut la voie du care, c'est la voie de la sollicitude. Parce que pour ce qui est des biens communs, de l'atmosphère, de la qualité de l'eau, de la démocratie, les intérêts, maximiser ses intérêts personnels ne fonctionne pas. L'homo economicus, qui uniquement s'occupe de ses intérêts, est une réduction, une caricature absurde de l'être humain, que les gens sont prêts à se faire confiance. Il y a des grands économistes comme Stiglitz, Amartya Sen, Denis Snower, qui disent qu'il faut la voie de la sollicitude dans l'économie, sinon ça ne fonctionnera plus. Donc ce n'est plus simplement des utopiques un peu sympathiques, mais en marge. Ils sont maintenant au cœur du débat. Et je crois que l'économie positive, l'économie solidaire, l'économie altruiste, le microcrédit, les fonds éthiques, le commerce équitable, c'est des choses qui sont en plein développement.
Donc effectivement, il y a une prise de conscience qui est importante, qui est planétaire, même si là encore aujourd'hui, je dirais, moins importante que ceux qui sont dans les logiques hein, de consumérisme et d'égoïsme. Mais cette prise de conscience est appelée à grandir et on le souhaite vivement. Alors Mathieu Ricard, cette émission se termine avec l'agenda culturel, comme une fois par mois, avec Marie Dalquier, mais on va rester avec vous. Bonjour Marie.
Bonjour. Alors justement, dans toutes les associations, enfin l'association notamment que vous avez montée, qui est Karuna Chechen, vous avez développé plus d'une centaine de projets. On en a retenu un justement où on pourrait avoir besoin des auditeurs justement. C'est le centre médical et clinique et la clinique mobile que vous avez montée à Bodh Gaya en Inde. C'est dans le nord-est de l'Inde. Alors c'est dans la région du Bihar. Vous avez choisi justement cette région-là parce que c'est là que le Bouddha aurait, il y a 2500 ans, trouvé l'éveil. Et donc c'est un haut lieu de pèlerinage et il y a donc notamment beaucoup de personnes très pauvres. C'est un des endroits les plus pauvres de l'Inde. Et c'est donc là que vous avez choisi de monter ce centre médical. Alors on y a des cliniques, un laboratoire, une maternité, un planning familial qui donne des soins et un accès aux soins gratuits et on peut donc toucher notamment les intouchables puisqu'ils viennent en masse lors des pèlerinages. Puis ce qui est intéressant, c'est que vous avez monté une clinique mobile. Alors cette clinique mobile, en fait, c'est un médecin, une infirmière, un pharmacien. Et ils se déplacent toutes les semaines dans une vingtaine de villages, dans un rayon de 50 km autour de Bodh Gaya. Et c'est pour donner notamment du soin aux handicapés et à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Mais en plus, vous avez une particularité, c'est que vous avez mis tout en place une association, une équipe de motivateurs qui sont dans les villages et qui justement travaillent à motiver, à éduquer, à former les villageois pour que justement ils ne soient pas présents uniquement quand la clinique intervient et qu'il y ait un vrai suivi dans les villages, notamment dans la prise de médicaments par exemple pour la tuberculose où c'est un très long traitement où il faut prendre à des moments réguliers le médicament. Voilà, donc nous on a trouvé ça assez intéressant et on s'est dit que voilà, si les auditeurs pouvaient être altruistes et donc pouvaient participer, alors vous avez surtout un besoin de dons d'argent, notamment pour les médicaments. Donc il suffit vous pouvez envoyer vos dons au 20 bis rue Louis-Philippe au 92 200 Neuilly-sur-Seine. Et puis vous avez aussi toutes les informations sur Karuna, Karuna-Sechen, S-H-E-C-H-E-N.org. Et pour les auditeurs qui souhaiteraient continuer cette émission, ils peuvent venir vous voir. Alors, c'est uniquement pour ceux qui habitent dans le Périgord. Aujourd'hui, à 17h30, on peut vous retrouver dans un lieu assez magique qui est la grotte de l'abbaye de Brantôme et vous donner une conférence sur l'altruisme et la bienveillance aujourd'hui à 17h30. Alors là, il y a les renseignements au 05 53 05 71 04. Et puis, on peut aussi vous retrouver le 10 octobre. Alors ça, c'est à Berlin. C'est un projet qui vous tient particulièrement à cœur, car c'est le premier congrès européen de l'Institut Made in Life. Alors le thème, c'est justement, on a fini l'émission là-dessus, changement personnel et sociétal sous l'angle des sciences contemplatives. Alors Mathieu Ricard, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est que Mind and Life et puis surtout pourquoi ce projet qui pour vous est très intéressant puisque vous êtes ancien chercheur en génétique cellulaire devenu moine aujourd'hui.
Alors très vite, l'Institut Mind and Life a été fondé il y a 25 ans pour rapprocher des contemplatifs et des scientifiques. Alors aussi bien dans le domaine de la physique quantique qu'autre chose, mais surtout dans le domaine de la psychologie et des neurosciences. Et c'est les recherches un peu catalysées par Mind and Life qui ont notamment montré que l'entraînement de l'esprit par la méditation modifiait structurellement et fonctionnellement le cerveau. Donc ça s'est beaucoup développé. Et là, on a vu un grand symposium aux États-Unis l'an dernier. Et c'est le premier symposium européen qui va rassembler des chercheurs, des économistes, des contemplatifs, des personnes qui s'occupent de la dépression, de l'éducation, et voir comment il y a un changement personnel et comment on peut passer de là à un changement dans la société vers une société qui fonctionne de manière plus optimale.
Voilà, c'est donc le 10 octobre à Berlin. On peut retrouver toutes les informations sur votre site pour y participer.
Et aussi sur le site de Man and Life. Donc,
voilà. Et votre site, c'est mathieuricard.org.
Merci.
Voilà, et puis je dis un dernier petit mot sur une association aussi qui appelle aux auditeurs, c'est le Paris Solidaire. Alors vous en êtes parrain, Frédéric. C'est une association qui met en relation les jeunes qui cherchent un logement entre 18 et 30 ans avec des seniors justement qui ont un petit meublé à proposer. Donc voilà, on soutient cette association avec les Racines du Ciel. Et puis en ce moment, ils recrutent notamment, ils cherchent des services civiques entre 18 et 25 ans. Alors c'est des petits contrats de 8 mois. C'est 30 heures et c'est 500 euros par mois. Vous pouvez aussi travailler à côté, avoir un deuxième contrat de travail. Et c'est pour aider des personnes âgées dont la résidence est en pleine rénovation. Donc c'est pour les aider à organiser leur petit intérieur, voilà, pour qu'ils ne soient pas trop angoissés lorsqu'il faut changer, déménager des choses. Et puis aussi les soutenir au moment où les ouvriers sont là. Voilà, tout ça c'est sur parissolidaire.fr. Et vous pouvez aussi leur écrire au 6 rue du Chef de la ville dans le 13e à Paris.
Merci beaucoup Marie, merci infiniment Mathieu d'être venu nous parler de l'altruisme. On aura envie de prolonger cette émission, on le fera peut-être d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas pu aborder. Donc je renvoie les auditeurs qui sont intéressés par cette question très importante à votre magnifique livre « Plaidoyer pour l'altruisme » aux éditions Nil. Merci à vous.
Merci beaucoup.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous recevrons Pascal Folliot et Henri Gougaud pour nous parler de la sagesse des contes. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Dans quelques instants, vous retrouvez le journal de la rédaction. Excellent dimanche à tous.